Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Dose de France. Je suis Johan Collot, fondateur de la page Instagram Dose de France et du site internet demichelot.com dédié aux apéritifs et spiritueux français. Dans ce podcast, nous ferons ensemble un petit tour de la gastronomie française en parlant de ce qui est dans l'assiette, mais aussi et surtout de ce qui se trouve dans notre verre. Mets traditionnels, boissons ancestrales et bonnes adresses, c'est le podcast Dose de France. Pour trouver des boissons de qualité, artisanal et traditionnel, rendez-vous sur demichelot.com. Petite intro commerciale, forcément il faut bien hein, pour vivre de tout ça, puis c'est les activités, donc il faut en faire la promotion, surtout quand on pense que surtout quand c'est du travail bien fait, voilà. Donc vous savez où trouver les boissons de qualité. Bonjour, bienvenue à tous dans ce tout premier épisode de mon podcast. Alors c'est un format que je voulais lancer depuis quelques temps, pour plusieurs raisons, notamment parce que j'en ai déjà fait et que visiblement, vu les retours qu'on me fait à chaque fois, ça a l'air de bien vous plaire comme type de format. Et moi, c'est un exercice qui m'a beaucoup plu, surtout quand je l'avais fait chez Les Bâtisseurs, la chaîne YouTube. C'est une interview dont on me parle régulièrement, même longtemps après que je l'ai fait, alors que pourtant, elle avait pas tant marché que ça en termes de vues, je veux dire, comparé à des vidéos Instagram qui peuvent faire plusieurs centaines de milliers de vues. Mais le fait de se poser longtemps, de discuter, ça crée peut-être un engagement beaucoup plus intéressant. Et donc, pour ceux qui l'ont vu, ça leur reste en mémoire. Voilà. Je le fais parce que j'apprécie ça et aussi parce que j'apprécie le faire, mais j'apprécie les écouter. J'en consomme vraiment beaucoup. J'en écoute en allant à la salle de sport, dans la voiture, en marchant, enfin bref, j'en écoute assez souvent sur divers sujets. Donc je me suis dit, pourquoi pas moi? Et puis comme ça aussi, ça me permet de pouvoir esquiver la loi Evin qui est très violente sur Meta. Enfin, pas la loi Evin, mais disons que le zèle de Meta par rapport à la loi Evin, c'est nous banne quasiment tout sur l'alcool. Donc ici, je pense qu'on pourra parler un peu plus librement et intelligemment. Voilà. Ce que je vous propose pour que ça soit un podcast pas trop débraillé, que je parte dans tous les sens, que j'oublie ce que je raconte et que du coup tout mon discours n'ait aucun sens, je propose qu'on structure les épisodes en quatre parties, du moins le premier je vais le structurer en quatre parties, puis on verra si ensuite on continue sur cette lancée. Partie 1, ce qui s'est passé un petit peu récemment pour moi, donc que ce soit des événements un peu sympas sur lesquels je peux revenir et vous donner un retour, une leçon ou quelque chose comme ça. Notamment lié à mon entreprise, donc un côté un peu actualité entrepreneuriale, voilà. Deuxième partie sur des recommandations de la semaine en termes de bouteilles, donc je pense que j'en ferai trois à chaque fois, en vous parlant brièvement de l'histoire de la distillerie qui est derrière la bouteille que je conseille et l'histoire de la bouteille en elle-même. Troisième partie, quête culinaire, j'ai appelé ça. Chaque semaine, j'aimerais bien vous dire un aliment que soit je connais, enfin un aliment, un plat ou une boisson que je connais ou que je ne connais pas, mais que j'ai envie de découvrir, traditionnel de la gastronomie française. Et le but, c'est que tout le monde le teste avant la semaine suivante. Et comme ça, chaque semaine, je dis, tiens, il faudrait qu'on goûte ça. Et ça nous fait découvrir une nouvelle variété, enfin une nouvelle facette de la gastronomie française. Chaque semaine, voilà, sans se ruiner, puisque, je sais pas si c'est un fromage, ça coûtera au maximum 10 balles, donc voilà. Et la dernière partie, recommandations de restaurants. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me suivent pour mes recommandations de restaurants. C'est pareil, c'est un sujet sur lequel vous revenez beaucoup quand vous me croisez dans la rue, les bonnes adresses, etc. Donc j'en donnerai entre une et, je sais pas, deux ou trois à voir. Désolé d'avance pour ceux qui n'habitent pas à Paris ou proche de Paris, parce que ça sera souvent centré sur Paris, forcément, parce que c'est là où je vis, donc c'est là où je vais au restaurant. Mais comme je me déplace aussi pas mal de temps, j'essaierai d'en faire un petit peu partout. Voilà. Et puis, comme la France est très centralisée sur Paris, je suppose qu'il y a une bonne partie d'entre vous, même si vous n'y habitez pas, vous y venez peut-être une fois par an, une fois tous les deux ans. Voilà. Donc je vous propose de commencer tout de suite par les actualités récentes, parce que c'est pas vraiment de la semaine, même si parmi celles-là, certaines sont de la semaine, comme la toute première, qui est la sortie du dernier maquisard. Donc, maquisard, c'est ma marque à moi d'embouteillage indépendant. Donc, c'est-à-dire que je vais dans des distilleries françaises acheter des tonneaux que j'embouteille tels quels, donc sans réduction à l'eau, au degré naturel du tonneau, sans les filtrations. Donc, pour avoir une essence pure de ce que j'ai sélectionné et avec une traçabilité complète sur l'étiquette, donc dans quelle distillerie j'ai acheté, le numéro de fût, avec quoi ça a été fait, l'appellation, le nombre de bouteilles, etc. Je pense que je reviendrai un jour sur un épisode sur quel est l'intérêt des embouteilleurs indépendants, parce que là, ça va être un peu long et ça me permettra de répondre à ceux qui pensent que je vole un fût à la distillerie ou que ça sert à rien parce que la distillerie aurait pu le faire elle-même, qui sont des interrogations que je peux tout à fait comprendre quand on n'est pas issu du monde des spiritueux. Mais non, les embouteilleurs indépendants ont une vraie utilité et ça permet de sortir des choses un peu différentes. Voilà, donc cette dernière sortie est un calvados que j'ai acheté, enfin fût de calvados que j'ai acheté chez la distillerie Roger Groux, appellation Pays d'Auge, et qui a la particularité d'avoir 33 ans, donc une assez vieille eau de vie quand même. C'est pas tous les jours qu'on voit des eaux de vie qui sont aussi vieilles que ça. 33 ans, c'est 4 ans plus vieux que moi. C'est-à-dire que le distillat était déjà mis en fût, que je n'avais toujours pas vu le jour et que je n'étais pas prêt de voir le jour. Donc je suis très fier de pouvoir embouteiller quelque chose comme ça. Bouteille de 50 centilitres comme d'habitude et au prix de 125 euros à trouver du coup sur demichelot.com en exclusivité. C'est en vente, enfin en pré-vente, puisque on vend avant d'embouteiller jusqu'au 12 mars et les livraisons sont estimées pour la fin du mois de mars. Voilà. Donc, il y a déjà eu, au moment où j'enregistre, ça fait déjà un jour qu'on l'a sorti, on en a déjà vendu pas mal, je suis assez content. Et c'est ce que je suis, le truc dont je suis le plus fier, c'est qu'il y a des gens qui n'ont jamais, j'ai reçu un message, quelqu'un qui n'a jamais acheté de bouteille en ligne, de bouteille d'alcool, qui n'a jamais acheté ou bu de Calvados, et la première fois qu'il va en boire, c'est un 33 ans. Spécialement sélectionné. Donc, d'un côté, ça me rend assez fier parce que la personne me fait vraiment confiance. De l'autre, je me dis, bon, au moins, il met le pied à l'étrier, mais le pied à l'étrier direct sur un pur sang, avant d'avoir testé le poney, le double poney avant, sur des eaux de vie qui sont plus faciles à boire. Mais bon, au moins, son palais sera enivré de mets délicats directement. Voilà, donc. La distillerie, je l'avais découvert au Whisky Live Paris l'année dernière, sur recommandation d'une personne qui m'aiguille pas mal dans le monde des spiritueux. J'avais déjà goûté certains de leurs produits, mais pas tout. Et du coup, comment ça se fait dans les coulisses? Bah, sur le salon, je goûte à tout ce qu'ils ont dans leur gamme générale. Je trouve que le travail est de qualité, donc je me dis bah ça pourrait être bien de venir visiter vos chais, goûter des trucs sur fût et pourquoi pas faire un embouteillage ensemble si on trouve quelque chose. Parce que comme ça évite de me déplacer directement dans une distillerie si j'aime pas les produits de base. Je me dis bon voilà, on va gagner du temps et on fait d'abord les tests des produits de base pour savoir si y a moyen de trouver des trucs exceptionnels. Ça me paraît logique. Donc toujours pour expliquer les coulisses, ensuite je me rends dans la distillerie, on goûte des fûts ensemble, on parle le patron ou la patronne, on fait un petit tour des distilleries, voir comment ils travaillent, est-ce que c'est eux qui ont leur verger ou est-ce qu'ils achètent juste des jus, comment ils distillent. Voilà. En plus on en apprend à chaque fois, même moi qui suis quand même assez initié puisque j'étais caviste en spiritueux, à chaque fois que je vais dans une distillerie, j'apprends de nouvelles choses. Là, par exemple, c'est une des dernières distilleries de Calvados à tout distiller au feu de bois. Ce qui est hyper compliqué et assez chiant, parce que bah, c'est plus facile de régler une température avec du gaz et que tout se fasse automatiquement. Là, il faut toujours des gens qui surveillent, nuit et jour. Donc voilà, ils m'ont expliqué comment ça se passait sur la distillation au feu de bois. C'était très intéressant. Et bon, pour le coup, le jour où j'y suis allé, il faisait très très froid, donc c'était assez dur de goûter, puisque quand il fait froid, tous les sens sont un peu anesthésiés. Et donc j'ai dû repartir avec des échantillons, puis regoûter chez moi. Et je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais dans Deux Michelots, on est plusieurs associés. Et pour sélectionner les maquisards, les fûts de maquisards, on est deux vraiment à les choisir. Donc à chaque fois, il faut que j'envoie aussi les échantillons à mon associé qui choisit avec moi. Et on ne discute pas ensemble. On goûte tout de notre côté. Puis ensuite, on fait des comparaisons et on finit sur celui qu'on a préféré. Alors, on n'est pas toujours d'accord, mais il faut essayer d'avoir un consensus. Et là, le consensus s'est trouvé autour de ce 33 ans. Pour vous dire, on hésitait avec un 2009. Un 2009, donc ça fait 16 ans. Un 16 ans, qui était vachement particulier, parce qu'il avait, dans mes souvenirs, un côté un peu exotique, végétal. On aurait pu croire franchement à l'aveugle, si je vous dis pas que c'est du Calvados, peut-être beaucoup auraient pu se tromper ou se dire bon c'est un peu un ovni. Le problème c'est qu'il était vraiment très très haut en degré d'alcool et son exotisme faisait qu'il était peut-être moins consensuel. Enfin après c'est ce qu'on cherche aussi en tant qu'embouteilleur indépendant, des ovnis, mais là c'était peut-être trop un ovni quoi. Il venait de trop loin dans le système solaire pour que des gens l'apprécient vraiment. Et comme on commence et qu'on veut que les gens aiment un petit peu notre style, on ne pouvait pas partir sur quelque chose de trop bizarroïde qu'allait décevoir certaines personnes et faire plaisir qu'aux vrais, vrais geeks qui allaient être contents de trouver des saveurs vraiment particulières. Donc voilà, on s'est rabattu sur ce 33 ans qui était notre autre choix et qui allait plaire à un plus grand nombre tout en étant très particulier aussi. Donc si jamais vous avez envie de le tester, je vous invite à aller sur demichelot.com, vous le trouverez. Maquisard Roger Groux, 33 ans, 42 degrés. Et si vous voulez plus de précisions ou si vous avez des questions, je pense que déjà j'en répondrai à une grande partie quand je ferai le podcast spécial sur les embouteilleurs indépendants. Mais vous pouvez toujours venir en DM Instagram, me poser vos questions sur la manière dont on a fait pour sélectionner des fûts. Voilà. La deuxième chose dont je voulais vous parler dans cette première rubrique, c'était la nécessité de faire un podcast. Donc, je vous ai expliqué au tout début de pourquoi j'en faisais un, parce que j'aimais ça, etc. Mais il y a aussi cette côté de nécessité où je parlais brièvement de la loi Evin, c'est que ça devient vraiment, la censure sur Instagram devient vraiment très très dure. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de, déjà, je n'ai pas le droit de dire que je vends de l'alcool, que j'ai une marque d'alcool. Enfin, j'ai le droit de dire que j'ai une marque d'alcool, mais j'ai pas le droit de dire que je vends de l'alcool. Et dans une même story, je n'ai pas le droit de parler d'alcool et de dire que je le vends ou de mettre un prix. À chaque fois, la story est sautée, puis je suis banni une semaine. Et comme Instagram, c'est un petit peu aussi mon gagne-pain, je vous avoue qu'être banni une semaine, c'est assez chiant. Et j'ai pas envie ensuite de me faire taper sur les doigts en allant au tribunal ou des choses comme ça. Donc je suis assez protégé quand même parce que vendre de l'alcool est mon métier et je peux faire une partie éducative dessus. Ce qui fait que ce n'est pas du pur commerce, ce qui me protège vachement, mais en même temps, je ne peux pas vraiment parler de façon explicite et mettre en avant mon entreprise, ce qui est très handicapant parce que quand tu as 200 000 abonnés, tu aimerais pouvoir parler de ce que tu fais et partager à tes abonnés les choses que tu vends, pourquoi tu les vends, comment tu les fais, etc. Mais tu peux pas. Donc je pense que le format de podcast peut beaucoup mieux s'y prêter déjà parce que je peux revenir en longueur sur les choses que je fais et en plus je peux parler un peu plus librement, j'espère. Je ne pense pas que Spotify va se taper une heure d'écoute à chaque fois pour faire sauter mes contenus. Donc voilà. Et comme c'est un moment où vous faites peut-être autre chose en même temps, vous êtes en voiture, vous travaillez, vous êtes à la salle, que sais-je. Vous avez plus le temps d'écouter, de comprendre la démarche et de rentrer en profondeur dans l'identité des produits qu'on vend. Voilà. Comme j'ai pu le faire bah là juste avant avec ce maquisard gros 33 ans, où peut-être certains n'avaient pas compris ce que je faisais et maintenant ça peut paraître un peu plus clair. Alors bon, peut-être pas, parce que comme c'est mon premier podcast, je m'éparpille un peu partout et je suis pas très précis, mais ça s'améliorera avec le temps, un peu de. Un peu de diligence, un peu de tolérance, mais ça ira mieux. Voilà, donc c'était aussi pour ça que je voulais le faire, pour un peu plus de liberté, d'indépendance, avec les nouvelles lois qui sont portées par un député LFI pour encore durcir la loi E20 sur les réseaux sociaux. Ça va devenir très très compliqué d'en parler avec des visuels, de dire qu'on vend, etc. Sachant qu'ils veulent même aller jusqu'à interdire la publicité pour les alcools sans alcool. Ça me paraît quand même un peu con, même si je comprends ce qu'ils veulent dire. Ils veulent dire oui, mais du coup, si vous buvez une bière sans alcool, ça vous mènera à boire des bières avec alcool. Bah ouais, mais mec, la base de votre projet, en fait, c'est que les gens boivent moins d'alcool. Vous avez contraint les marques à faire du sans alcool pour qu'elles puissent faire du marketing. Elles vendent désormais des produits qui sont sans alcool et vous les punissez pour ça. C'est-à-dire que vous les punissez pour avoir fait un truc que vous vouliez qu'elles fassent. C'est un peu con. Et en plus, si on veut vous troller, on peut aller encore plus loin. On peut dire, bah, le whisky coca, enfin, le coca, c'est un whisky coca sans alcool. C'est un cocktail sans alcool. On peut être con, quoi. On peut dire que le tonic, c'est du gin tonic sans alcool. Voilà. Ça veut dire que toute la filière des vins sans alcool qui commençait à émerger, ils vont leur interdire de faire de la publicité en écrivant vin sans alcool. Mais du coup, ils vont écrire quoi? Ils vont écrire boisson à base de jus de raisin pétillant qui ressemble à quelque chose que vous connaissez mais qui n'en est pas. Ça me paraît un peu con, ça me paraît vraiment très restrictif et c'est mon côté complotiste. Je pense que derrière tout ça, et notamment derrière les associations qui sanctionnent, beaucoup rêveraient de anéantir ce marché parce qu'il, pour différentes raisons, que ce soit idéologique ou personnel. Enfin, les raisons idéologiques sont des raisons personnelles, mais voilà. Je pense qu'il y en a certains qui veulent lui faire très très mal. Donc d'abord, c'est un secteur qui est plus taxé que les autres secteurs parce qu'on paye des droits de douane et de la sécurité sociale en amont, sur lequel on paye en plus de la TVA, donc on paye une taxe sur la taxe. Et bien sûr, maintenant, on n'aura plus le droit d'en parler, donc on devra beaucoup payer et sans avoir le droit de vendre. Donc la prochaine étape, c'est dire bon, en fait vous n'avez pas le droit de produire, voilà, parce que c'est chiant et on veut plus vous travailler, voilà, parce que vous êtes des assassins en fait. Chaque fois ils disent 45 000 morts par an, voilà, vous tuez 45 000 personnes par an avec votre poison, et donc c'est légitime qu'on se fasse plein d'argent sur vous quand même. Enfin, ça rééquilibre des dépenses de la sécurité sociale, mais bref. Et qu'on vous interdise d'en parler parce que, au final, fabriquer des eaux de vie et se faire chier à avoir un vrai savoir-faire et le faire vieillir 33 ans pour obtenir quelque chose de qualité, une expression de terroir parfaite, bah, ça tue des gens. Voilà, vous êtes monstrueux. Bon, moi, je pensais que ce qui tuait des gens, c'était plutôt de boire des litres et des litres de Jack Daniel de merde. Mais pas de distinguo. On prend un secteur, on ne sépare pas et on frappe tout le monde. Telle est la politique de la France. Donc voilà, tout ça pour dire que je pense que le podcast sera plus propice à parler de mon métier qu'Instagram. Et donc je vais désormais en parler un peu plus longuement et en profondeur ici. Et maintenant, un peu la dernière actualité, dernier événement de la semaine, c'est le fait que demichelot.com, qui s'appellerait peut-être pas tout le temps de michelot.com. Voilà, je glisse peut-être une petite surprise. Un jour, ça changera de nom. Alors, ma marque de liqueur de plantes s'appellera toujours de Michelot, mais le site sur lequel on vendra, on va peut-être changer. On est en train d'hésiter, voilà. Pour pas qu'il y ait de confusion entre le site et la marque, puisque tout simplement sur le site, nous allons nous mettre à vendre les bouteilles d'autres distilleries françaises, artisanales de qualité, présélectionnées par moi-même, etc. Donc, ça sera toujours top qualité. Mais ce ne sera pas que Maquisard et de Michelot qui sont mes marques, mais les marques d'autres distilleries. Donc, je fais ça parce que je suis identifié comme quelqu'un qui fait la promotion des alcools français. Alors, dans la logique des choses, le but était de faire de la promotion plus large, plus rapidement. Et pour ça, bah, je ne vais pas sortir 8 000 marques qui n'ont pas d'histoire spécial derrière, autant vendre celles des autres et qui font du bon travail sur plusieurs générations et mettre en avant leur travail. Et ça va plus vite pour moi parce que je peux en mettre plus. Vous aurez une plus grande diversité rapidement et moi je fais vivre des distilleries françaises et je mets en avant leur boulot. Donc tout le monde est content dans le meilleur des mondes. Donc demichelot.com va se transformer en une plateforme, un site internet qui regroupe plein de différents apéritifs et spiritueux français. Par exemple, on va rapidement avoir une vodka faite à base de jus de raisin de champagne, Donc, en gros, du raisin qui était de base fait pour fabriquer du vin effervescent en champagne, bah là, il a été utilisé pour faire de la vodka. Donc, c'est une vodka. Alors, de base, moi, j'en bois pas, mais et je venais même pas pour sélectionner ça. Mais quand je l'ai bu, je dis, ah, elle est cool celle-là, bah, j'aimerais bien la distribuer. Et de la même distillerie, on va vendre un soju, donc un alcool traditionnel japonais, normalement, ou qui sont en général faits à base d'orge ou de riz. Et là, pour le coup, c'est un soju français, puisque c'est fait à... Déjà, c'est fait en France, dans la région de Champagne, encore une fois. C'est fait au même endroit que la vodka. Et c'est fait à base de lis de riz de Camargue, et pas de riz japonais. Donc, c'est un alcool distillé en France, par des techniques françaises, et fait à base de matières premières françaises. C'est juste le nom de l'alcool qui, lui, est japonais. Et c'est un véritable ovni. C'est vraiment très rigolo de faire ça, et je suis assez fier de l'avoir sur mon site. C'est un peu le but d'avoir une caverne d'Ali Baba des spies français, avoir un petit peu plein de trucs différents qui sont pas forcément au goût de tout le monde, mais qui ont des histoires sympas, des procédés de fabrication étonnants ou des matières premières étonnantes. Donc là, ça touche pile le but. Et après, on va rentrer aussi une distillerie de cognac qui fait des cognacs 4 ans, 7 ans, 10 ans bio. Alors, quand je dis 4 ans, 7 ans, 10 ans, ça veut pas dire que c'est que du 4 ans, genre, ou que du 7 ans, ou que du 10 ans. Par exemple, dans le 10 ans, il y a des jus qui ont 10 ans minimum, donc ils sont obligés d'écrire ça. Mais il y a un peu plus aussi, donc c'est les assemblages. De la même distillerie, on va rentrer du Pinot des Charentes, blanc et rosé. Donc, Pinot des Charentes, c'est un mix entre grossièrement entre du jus de raisin et du cognac qu'on a fait vieillir ensemble, donc beaucoup plus bas en degré, plus sucré, et beaucoup moins cher aussi, qui plaira beaucoup aux femmes. Et on a alors c'est une boisson unique qu'ils ont créée, qui est une sorte de Pinot des Charentes, mais dans lesquels ils ont ajouté de la framboise. Donc c'est une sorte de Pinot des Charentes fait à base de raisin, mais qui a aussi goût de framboise, et qui sont appelés Marie Framboise. Donc ça sera aussi étonnant. Pareil, ça sera disponible. Et un Pinot des Charentes pétillant, donc qui n'a pas le droit de s'appeler Pinot des Charentes. Auxquels ils ont donné leur propre nom, mais c'est à peu près la même chose, juste c'est pétillant, donc une boisson vineuse à base de raisin, sucrée, pétillante. Alors ça pour l'été, mais tu mets ça dans des glaçons, tu t'allonges sur un transat, lunettes de soleil au bord de la piscine, tu te régales, je vous jure. En plus c'est à 11 degrés, donc tu peux enchaîner, c'est merveilleux. Et la dernière chose qui va arriver, ça sera du Calvados, Calvados 3 ans, Calvados 8 ans, 12 ans, 18 ans et plus. Et aussi en version 2,5 litres, s'il y a des gens qui sont chauds, pour à peu près 300 balles, je crois. Et un Calvados de 11 ans, embouteillé à 44,6 degrés, je crois, qui a vieilli en fût d'hydromel, donc un alcool fait à base de miel. Donc un petit ovni, il n'y en aura pas beaucoup, j'ai juste pris pour tester, voir si ça pouvait vous intéresser. Mais on va distribuer ça aussi. Donc on a trois distilleries pour l'instant, et le but est d'en rentrer de plus en plus pour que sur demichelot.com se trouve une très grande variété d'apéritifs et de spiritueux, qui sont des expressions de tous les terroirs et de toutes les variétés françaises, que, en termes d'alcool, on a quand même une chose assez unique dans le monde, c'est qu'il n'existe aucun pays qui a fait autant de diversité d'alcool que nous. C'est-à-dire que, par exemple, aux États-Unis, qui est un pays très très grand, je suppose qu'ils ont plein d'arbres fruitiers, de plantes, de machins, mais ils fabriquent rien avec. En fait, ils font... Ils font du whisky et ils importent des quantités astronomiques de tequila. Voilà. Donc il n'y a pas d'expression de leur terroir. Alors qu'en France, vraiment, mais dans chaque département, tu as je ne sais pas combien d'alcools traditionnels. Et moi, j'ai envie d'en regrouper un maximum, même si ça ne se vend pas des masses. Au moins, chez moi, vous pouvez tout retrouver, quoi. Si vous êtes un Vendéen, parce qu'en France, en général, on boit les alcools qui sont de la région où on habite. Et je me suis dit, bah, c'est con. Enfin. Je pense que ça ne changera pas, c'est tout à fait logique, puisque nous, on est enracinés dans un terroir, et donc on mange les trucs et on boit les trucs qui sont de chez nous. Ça me paraît assez logique. Mais pour le coup, vous aurez la possibilité d'aller voir ce qui se fait ailleurs, qu'un Breton puisse acheter un Patcharan, qu'un Vendéen puisse acheter du kirsch, du schnapps, qu'un mec de Lille puisse acheter différents types de pastis et tout. Moi, c'est ça qui me ferait kiffer. Et c'est un peu le but du projet. Donc, je suis content de commencer à rentrer différentes distilleries qui me font confiance pour bosser avec moi. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà. J'arrive au bout de cette première partie. Je pense que je devrais faire des génériques pour couper entre les différentes parties, puisque sinon, ça tombe un petit peu comme ça. Mais pour l'instant, on va le faire à la mano. Donc, deuxième rubrique, trois recommandations de bouteilles de la semaine. Alors, j'ai choisi différentes choses. Alors, le but, ce n'était pas de recommander uniquement ce que je vends. Parce que ce que je vends, je le recommande déjà. Et je l'ai pas mal fait déjà dans les 20. Ça fait combien de temps qu'on arrive? 25 minutes, 25 premières minutes. Donc là, le but, c'est d'aller chercher un petit peu des choses que j'aime en goût personnel, alors toujours en alcool français quand même, et de vous en parler. Donc la première chose dont je voudrais vous parler, c'était une blanche d'Armagnac. Donc l'Armagnac, donc un spiritueux à base de raisin du sud-ouest, je pense que vous connaissez tous. Qui fait avec des vignes, enfin, on prend les vignes, on fait du jus de raisin. Ce jus de raisin, on le fait fermenter, qu'on transforme en vin. Vin que l'on distille et qu'on fait vieillir pour obtenir de l'armagnac. Donc, après, c'est selon un certain cahier des charges, qui notamment englobe les zones géographiques et des techniques de fabrication. Mais grosso modo, vous avez le trajet, quoi. Eh bien, se popularise depuis quelques temps, ou du moins on revoit venir beaucoup sur le marché, des blanches d'Armagnac. Donc, c'est un Armagnac qui a été fabriqué, enfin distillé, puis réduit à l'eau, mais qui n'a pas été vieilli. Donc, il est tout blanc. Alors, il ne prend pas du tout le goût du bois, ni la micro-oxygénation que donnera le bois, ce qui en fait un spiritueux à part entière. Et celui dont je voudrais vous parler, c'est la blanche d'Armagnac Vital de la maison Labal. Donc, si jamais. Vous voulez rechercher, je crois que ça coûte c'est 45 € pour 70 centilitres. Ça titre à 45 degrés et c'est bio. Voilà, c'est ce que je m'étais noté. Et donc, c'est fait par la maison Labal à la frontière des Landes et du Gers, qui est une maison qui date de 1820. Donc, ça commence à dater quand même. Ça fait 200 ans, 225 ans. Et c'est la 8e génération actuelle avec Cyril. Le cépage dominant, donc la variété de raisin utilisée dans cette blanche d'Armagnac, c'est du Baco, qui est un cépage très robuste. Et après, c'est distillation traditionnelle au feu de bois, eux aussi. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cette bouteille, au-delà de l'expression très pure, parce qu'on sent directement les saveurs, les arômes du distillat, donc de l'alcool qui est fraîchement sorti de l'alambic, ce qui est une expérience assez étonnante. Ce que j'aime beaucoup aussi avec cette bouteille, c'est l'histoire qui va avec, puisqu'ils l'ont appelé Vital. Il faut savoir que Vital, c'est comment on appelle ça? C'était un prieur, un mince, oui, c'est un prieur, un homme d'église en gros. Qui portait ce nom, qui était Vital Dufour, et qui a écrit un livre qui s'appelle Les 40, enfin, un document qui s'appelle Les 40 vertus de l'Armagnac. Parce que, en fait, à l'époque, l'Armagnac était souvent consommé pour ses vertus thérapeutiques, et de nombreuses personnes ont attesté les bienfaits de cette eau de vie. Alors, attention, hein, je parle des trucs historiques, hein. Je ne dis pas que c'est vrai, hein. Moi je ne m'engage pas, je reprends les propos de Maître Vital Dufour, prieur d'Auze et de Saint-Mont, et qui a fait des études à Paris, et c'est un franciscain qui part étudier la médecine à Montpellier en 1295, en 1295, donc il y a plus de 700 ans. Et en 1313, il publie des ouvrages théologiques sur la médecine, et dont un qui est conservé maintenant à la bibliothèque du Vatican, et qui révèle toutes les vertus de l'Armagnac. Donc, dans la bibliothèque du Vatican, il y a un document où il y a écrit cette eau, si on la prend médicalement et sobrement, on prétend qu'elle a 40 vertus ou efficacité. Voilà, donc il y a un document dans la bibliothèque du Vatican qui a plus de 700 ans, qui est donc un marqueur historique de l'existence de l'Armagnac à cette époque-là. Donc, on sait que l'Armagnac a plus de 700 ans, qui a plus vieille eau de vie de France. Et dans ce document, on peut retrouver notamment la vertu numéro 15. Elle remet en mémoire les choses oubliées. Je ne suis pas sûr que ça soit vrai. Vertu 28, elle ôte la douleur aux oreilles et la surdité. Voilà, si jamais vous avez une petite otite. Vertu 14, elle aiguise l'intelligence si on en prend avec modération. Il savait déjà que si tu te mettais des caisses, t'étais beaucoup plus con qu'à l'origine. Mais si t'en prenais une petite goutte, tu pouvais peut-être devenir plus intelligent, visiblement. C'est ce qu'ils avaient remarqué. Vertu 34, elle aide à l'accouchement si la femme enceinte en a bu. Alors ça, je ne recommande absolument pas. Si vous êtes enceinte ou que votre femme est enceinte, ne lui faites surtout pas boire de l'armagnac. Mais visiblement, ils avaient testé il y a 700 ans sur les femmes enceintes. Et ensuite, y a des vertus qui sont un peu plus, comment dire, chimiques, quoi, enfin, où tu sentais qu'ils faisaient des tests avec. Ce vertu numéro 9, elle fige le mercure, qui devait faire des tests avec l'armagnac. Vertu numéro 10, elle purifie le cuivre. Voilà, donc c'est un petit peu l'histoire rigolote de cette bouteille qui rend hommage à Vital, qui a ancré pour la première fois dans l'histoire l'existence de l'armagnac dans cette zone. Et le document, le savoir que le document se trouve encore aujourd'hui dans la bibliothèque du Vatican, c'est quand même assez dingue. Voilà pour ma première recommandation. D'ailleurs, je suis en train de me dire, pour que vous trouviez, si jamais ces bouteilles vous intéressent suite à mes recommandations, en fait, je devrais les acheter en amont à d'autres personnes, en avoir une petite dizaine de chaque sur mon site, et comme ça vous les retrouveriez plus facilement. Bref, petite tambouille interne, on verra comment ça se passe. Déjà, on va voir si le podcast vous a plu et si ça vous a donné envie de découvrir ces bouteilles-là. Ma deuxième recommandation, c'est un cognac qui est tout nouveau, qui s'appelle Ferrand, donc cognac de la maison Ferrand, édition 1840. Alors, c'est pas une bouteille de 1840, attention, mais c'est un hommage à des techniques de fabrication. Elle coûte 57 €, 70 centilitres, elle aussi à 45 degrés. Savoir que je bois pas souvent des trucs à 40 degrés. Moi, je trouve que ça manque un peu de patate. Souvent, ça commence à 45, 46. 46, c'est le chiffre d'or pour le whisky, mais souvent à 45 et plus. Du moins pour les spiritueux, pas pour les liqueurs. Cognac Ferrand, c'est une marque qui date du 17e, 18e siècle, mais plutôt début 17e siècle. Elle a connu 10 générations de Élie Ferrand. Alors, il faut savoir que 10 fois de suite, la personne qui dirigeait la marque de cognac s'appelait vraiment Élie Ferrand. Donc, dans les documents, des fois, tu dois t'y perdre un petit peu. La maison Ferrand a été reprise en 1989 par Alexandre Gabriel, qui n'est pas un membre de la famille Ferrand, mais de toute façon, il n'y avait plus de Ferrand qui pouvait reprendre. Et lui a repris la distillerie, enfin, repris la marque de cognac. En a gardé le nom, mais maintenant ce n'est plus la famille Ferrand qui la dirige, mais Alexandre Gabriel. Je pense que vous ne connaissez pas son nom si vous n'êtes pas dans le monde des spiritueux, mais vous devez connaître ce qu'il a fait, puisque au-delà du cognac Ferrand, c'est aussi lui qui a fondé le gin Citadelle et la marque de rhum Plantation, qui est vraiment très très connue, qui a changé de nom maintenant, qui s'appelle Plantrait, mais c'est ancien Plantation. J'ai eu la chance de le rencontrer, c'est vraiment un homme très sympathique qui a une connaissance absolument infinie des spiritueux. Quand on est un vrai passionné comme moi, pouvoir discuter avec lui, c'est très enrichissant. On apprend plein plein de choses. Je parlais pendant plusieurs dizaines de minutes des variétés de bois, ce que donnait un châtaignier comparé à un cerisier, comparé à un chêne, comparé à etc. Enfin, c'était vraiment très enrichissant. Qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait, cet homme a la particularité de faire une collection. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais dans mes souvenirs, il collectionne les cognacs qui ont moins de 8 ans, mais qui datent de plus de 100 ans. Donc, il faut savoir que l'alcool, c'est pas comme le vin. Une fois que c'est en bouteille, ça ne vieillit plus. Donc, en gros, il a une collection de bouteilles de cognac qui ont été embouteillées dans leurs 8 premières années après qu'elles aient été mises en fût. Et depuis qu'elles sont embouteillées, ça fait 100 ans qu'elles attendent. Et en fait, avec cette édition Cognac Ferrand 1840, ils voulaient reproduire le style de ces cognacs qui ont quasiment enfin, 150, 200 ans, qui est un style très différent des cognacs qu'on fabrique aujourd'hui. Donc, c'est des cognacs qui ont un peu plus de puissance aromatique, qui étaient faits pour être en cocktail en général ou un peu dilués. Il me semble que c'est. Je crois que c'était Zola ou Victor Hugo quand faisait à fond la promotion. Et ils avaient l'habitude de mettre un petit trait d'eau ou de choses comme ça dans leur cognac. Et donc, avec cette formule, elle a voulu refaire, rééditer ces cognacs de 1840. Et voilà, c'était pour refaire, qu'auraient utilisé les barman pionniers du 19e siècle, lorsque le cognac était un spiritueux de prédilection pour la confection de cocktails. Inspiré par la dégustation d'une bouteille incroyablement rare de l'année 1840, donc voilà ce que je dis, c'est parmi sa collection, l'assemblage fait appel aux techniques du 19e siècle pour offrir un cognac riche, concentré, particulièrement adapté au cocktail, dans le pur style de l'époque de Jerry Thomas. Bon, après, je sais pas qui c'est ces mecs-là, mais bref. En gros, voilà, c'est un hommage à un goût d'autrefois. Donc, si vous voulez goûter, ça sera forcément pas la patine du temps de si vous aviez une bouteille qui a plus de 100 ans. Mais au moins, ça a le mérite de faire le test. Et pour avoir testé, déjà la bouteille est très jolie. Et en plus, c'est très bon. Et il a raconté une super anecdote qui m'est restée en tête, c'est que. Il trouvait qu'il y avait un espèce de petit défaut dans ses cognacs d'avant, mais que c'est ça qui les rendait beaux. Et je suis assez d'accord avec lui dans son analyse, qui rend quelque chose de beau, c'est toujours le petit défaut. Un visage parfait, il est assez fade. Une voiture parfaite, elle est fade. Enfin, la beauté pure et parfaite peut avoir quelque chose de trop lisse, de trop fade. Et donc, une petite aspérité donne toute sa beauté à un objet, à une personne, enfin, à quelque chose, quoi. Et racontait ça parce que c'était un charcutier qui lui avait dit ça justement. Et il avait pris l'anecdote de l'andouillette où il disait pour fabriquer une andouillette et pour qu'elle soit bonne, il faut bien vider les boyaux. Parce que bon, il y a de la merde dedans, hein, clairement, c'est ça qu'il faut dire. Il y a de la merde et donc il faut bien nettoyer. Mais si on nettoie tout trop bien, ça a plus de goût. Donc un très bon boyau fait en andouillette, c'est un boyau dans lequel on a lavé toute la merde, mais on en a laissé un petit peu pour la beauté. Vous oublierez jamais vous m'oublierez jamais la prochaine fois que vous mangerez une andouillette et que vous la trouverez bonne. Vous vous souviendrez pourquoi. Donc voilà, tout ça pour dire que c'était un petit peu le discours qui tenait autour de son cognac 1840. Voilà, si vous voulez le découvrir. Et la troisième recommandation que je voulais vous faire, c'est un whisky français, whisky armorique, donc un whisky breton fait dans la distillerie de Waregem. Donc Waregem, c'est la distillerie qui fait le whisky de la marque Armorique, mais en gros, c'est la même société, quoi. C'est les premiers producteurs de whisky en France. La distillerie elle date de 1900, tout pile dans mes souvenirs. Mais de base, en fait, ils faisaient un élixir d'Armorique, donc qui était une liqueur à base de plantes, et qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui, donc à 125 ans, et qui sera peut-être distribué sur demichelot.com. Voilà, petit teaser. mais voilà. Et maintenant, ils font du whisky, donc de la marque Armorique, qui marche très très bien. Et qui est la boisson la plus connue de chez eux. Et en fait, ce whisky dont je voulais vous parler, c'est un single cask, donc un seul fût qui a été sectionné. En fait, ils ont fait le même travail que moi je peux faire avec ma Kizar, mais eux sur leur propre fût. Vous voyez que déjà, il y a bien une utilité, donc c'était pour sortir un fût qui avait un côté exceptionnel. Et il a passé, donc c'est un whisky qui a 12 ans. Qui a passé 7 ans et demi en fût de Bourbon, donc qui est un whisky américain, et ensuite 4 ans et demi en fût de Sherry Oloroso, qui est un vin fortifié espagnol un peu oxydatif, qui va donner des notes de noix, de fruits secs. Et c'était vraiment mon coup de cœur du Whisky Live Paris 2025, donc le plus grand salon du whisky en Europe, dans le monde peut-être, en Europe en tout cas. Voilà, maintenant j'ai récupéré une bouteille et dans mes souvenirs, c'est Whisky Armorique Sherry. Elle vaut 112 ou 115 € 70 centilitres et elle est à 56 degrés. Voilà, donc il faut quand même avoir une petite expérience pour l'apprécier pleinement. Mais en tout cas, c'est des boissons qui sont de tellement haut niveau, qui sont tellement bien faites, que je vous assure qu'il ne faut pas avoir peur de ces degrés-là, puisque on juge la qualité d'un alcool, enfin d'un spiritueux, à la manière dont l'alcool est intégré. à 56 degrés, je vous assure que ça ne va pas vous brûler, vous n'aurez pas l'odeur et le goût de l'alcool. Vous serez même étonné à quel point ça s'absorbe, ça se boit facilement pour quelque chose d'aussi fort. Et c'est à ça que vous reconnaîtrez aussi la qualité d'un très grand alcool, très bien fait. Et c'est un des critères qui fait que moi, j'ai adoré cette bouteille. Et donc, il ne faut pas être terrifié par le chiffre qui est écrit. Il faut y aller, quoi. Il faut goûter. Donc, si jamais, whisky armorique, sherry. Vieillissement en fût de sherry oloroso. Voilà, c'est tout pour ces trois recommandations de la semaine. Alors, j'ai bien parlé, je me suis bien étalé. J'espère que ça ne fait pas trop d'infos pour vous. Au pire, vous pouvez réécouter ou repasser en arrière pour retrouver ce que, si jamais vous vouliez aller les tester ou les trouver en boutique quelque part. Troisième rubrique, quête culinaire de la semaine. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps, j'étais à Lyon pour un salon. Et moi, j'adore aller à Lyon pour aller dans les bouchons lyonnais, donc les restos traditionnels lyonnais. Et qui ne sont pas les tacos trois viandes sauce fromagère. Hein. Non, non, c'est des vrais bouchons lyonnais et vrais restaurants lyonnais où on mange beaucoup d'abats, etc. Il y a beaucoup de formules avec entrée, enfin amuse-gueule, entrée, plat, enfin entrée à partager, plat, fromage, dessert, pour pas très cher. Donc c'est très copieux de manger là-bas, on mange très bien et on sent se ruiner. Et souvent, quand arrive le moment du fromage, parce que la quête culinaire de la semaine, c'est un fromage. On a le choix entre deux choses. Donc, le premier est un fromage frais qui s'appelle la cervelle de Canut. Ça n'a rien à voir avec de la cervelle, hein, c'est du fromage. Et c'est pas celui-là que je vais vous recommander en quête de la semaine, mais qui est une histoire hyper intéressante. On pourra s'étaler peut-être une prochaine fois. Et le deuxième qu'on recommande souvent, c'est le Saint-Marcellin. Et le Saint-Marcellin, qui est assez connu, que j'avais déjà goûté plein de fois, mais là j'en ai pris trois ou quatre fois de suite. Et désolé, on m'a appelé, hein. Dans les conditions du direct. Et c'est un fromage en fait qui est absolument délicieux. Depuis que je suis rentré de Lyon, en fait, je fais que de bouffer du Saint-Marcellin. J'en ai acheté déjà quatre ou cinq. Et vraiment, je vous recommande d'essayer d'en trouver. Normalement, vous en trouverez chez n'importe quel fromager. C'est pas très cher. C'est un tout petit fromage rond qui est au lait de vache, originaire du coup de la région des Rhône-Alpes et dans l'ancienne région du département du Dauphiné. Alors, je sais plus exactement ce que c'était exactement. Et il tient son nom de la ville de Saint-Marcellin en Isère. Ça qui est pratique en France, c'est que souvent les noms des fromages, des boissons et tout ont le nom des villes en fait. Donc c'est fait en Isère, village de Saint-Marcellin. Et voilà, moi je suis fan absolu. Donc pour la semaine prochaine, vous avez 7 jours, allez chez un fromager ou même dans des espaces fromage, dans les galeries marchandes ou des choses comme ça, ou au marché, et demandez un Saint-Marcellin. C'est pas très cher, c'est pas très gros, donc vous prenez pas un risque de ouf. Et vous allez adorer, je vous jure. C'est puissant, mais sans être trop puissant. Ça qui est bien. C'est un très bon équilibre, c'est frais, ça a du goût, c'est pas écœurant. Enfin voilà, vous allez vous régaler, je vous assure. Et maintenant, quatrième et dernière partie de ce podcast, une petite recommandation de restaurant de la semaine si certains veulent sortir dîner au lieu de bouffer des tartines entières de Saint-Marcellin tout seul chez eux. Je vous fais une petite liste de trois cette semaine pour que vous ayez un petit peu le choix. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps dedans qui avait ultra bien marché et depuis il y a tout le temps du monde qui y va. Donc je suis très très fier d'avoir mis cette adresse en valeur. C'est mon QG, mon quartier général personnel, le pied de fouet rue de Babylone dans le 7e arrondissement à Paris. Une ambiance comme les vrais bistrots d'autrefois. Vous rentrez là-bas, c'est une faille spatio-temporelle. Vous allez être transporté dans un autre monde, un autre univers, et vous allez oublier vos tracas, vos soucis. J'y vais vraiment pour ça, pour cette ambiance. Le patron est quelqu'un d'adorable, une vraie trempe de bistrotier, une vraie gouaille, un vrai caractère. C'est sublime, c'est magnifique. Pas de réservation, tu débarques, tu peux même te retrouver assis à côté de gens. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, moi j'aime bien. Donc, il faut être sociable, quoi. Mais vraiment, un super lieu. Et moi, c'est mon QG. C'est le lieu où où je me repose, ou quand j'ai un coup de mou, bah, je vais manger là-bas. Et je sais que ça me fait du bien à chaque fois. Donc voilà. Oh, le pied de fouet, dans le 7e arrondissement, rue de Babylone. Attention, parce que je crois qu'il y en a un qui a le même nom, mais qui n'est pas au même endroit. Donc c'est vraiment celui dans le 7e arrondissement, rue de Babylone. Deuxième resto, qui est un peu plus chill, tranquille, c'est pour emmener votre compagne ou votre compagnon ou même juste votre date. Je vous recommande Jugo. C'est pas vraiment un bistrot, même si ils ont appelé bistrot Jugo, mais c'est cuisine simple, efficace. Enfin, c'est pas vrai parce que y a des trucs simples, mais des trucs un peu moins simples. Mais bref, en tout cas, c'est sublime. C'est tenu par un couple qui a exactement le même âge que moi, qui est en 1996. J'y suis déjà allé 3-4 fois. Et vraiment, on mange super bien. Donc, Jugo, Djougo, dans le 17e arrondissement. Là, ça, du coup, on monte un peu en termes de gamme de ce qu'il y a dans l'assiette et en termes de prix. Mais voilà, c'est un autre style et vous allez vous régaler. Et allez, pour un truc en dehors de Paris, si jamais vous crevez un pneu vers Nevers, eh ben, ne prenez pas la dépanneuse directement vers chez vous. Arrêtez-vous à un restaurant qui s'appelle La Simplicité, à Nevers, c'est le nom du restaurant, La Simplicité. C'est une ambiance vraiment dingue. Le patron est tout le temps en short, même quand il fait moins 10. Il est très sympa. C'est dingue parce que dans les villes moyennes ou petites, comme Nevers. Moi, bon, la première fois que j'y suis allé, il y avait quand même des mecs qui rentraient à 22h30 pour venir bouffer. À Paris, c'est déjà très rare de trouver un restaurant où tu peux rentrer à 22h, 22h30 pour venir bouffer. Et à Nevers, t'en as un où t'as des gens qui arrivent aussi tard et ils les prennent toujours à manger. Donc c'est vraiment une institution là-bas. Et si vous aimez les bons vins, il a une carte de vin qui est très grande, très bonne et avec des allocations incroyables. Donc, si même vous voulez vous faire plaisir en vin et que vous êtes à Nevers et que vous vous dites putain, qu'est-ce que je fous là? Eh bah, sachez qu'il y a une superbe adresse et qu'ils seront ravis de vous recevoir. Donc, n'hésitez pas à y aller et vous allez passer un super moment. Voilà, on touche à la fin de ce tout premier épisode de podcast. 47 minutes. Je ne sais pas si c'est long, je ne sais pas si c'est court, je ne sais pas si c'était intéressant. En tout cas, il y en aura un deuxième épisode parce qu'il faut en faire plusieurs pour se perfectionner. N'hésitez pas à me faire vos retours par message privé sur Instagram. Franchement, je suis vraiment preneur de critiques, qu'elles soient négatives, positives, peu importe. Je ne sais pas s'il y a des systèmes d'abonnement sur Spotify, Apple Podcast et tout. En tout cas, si vous pouvez liker, vous abonner, bah faites-le. Et sinon, rendez-vous sur demichelot.com pour trouver des bonnes bouteilles. Et sur le compte Instagram Dose de France pour suivre mes aventures, mon actualité. Je vous embrasse, passez une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Ciao!